Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui, Léo Ferré, la musique insurgée. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. Léo Ferré est né le 24 août 1916 à Monaco. Il a fait descendre la poésie dans la rue, c'est du moins ce que disait Aragon. Mais pas seulement. Ferré a chanté Baudelaire, Rudebeuf, Verlaine, Rimbaud et Apollinaire. Il a aussi chanté du Ferré, bien sûr. Léo, c'était un poète musicien inclassable qui n'a pas fini de nous faire chanter les balmusettes, les anarchistes, l'amour, la mort et la poésie, sa poésie. Il s'est toujours voulu, même au fait de sa gloire, le poète maudit, le dernier, comme lorsqu'il chantait et criait à Richard « Les hommes, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit. Alors on boit un verre et l'on regarde loin, derrière la glace du comptoir, et l'on se dit qu'il est bien tard. Richard, un petit vite fait, le dernier, pour la route. » Dès l'âge de 7 ans, Ferré s'intéresse à la musique. Avec son oncle violoniste, il assiste au spectacle de l'opéra de Monte Carlo. C'est le début de sa grande passion pour la musique classique. Son père lui interdira les cours de piano. Enfant solitaire, il comble sa solitude en lisant en cachette les poètes français considérés comme subversifs. Après ses études, il exerce plusieurs petits boulots. Le poète est déjà rebelle et veut de la musique avant toute chose. En 1943, il épouse Odette. Puis à Paris, dès 1945, il se produit dans des cabarets où il rencontre Aznavour, puis Gréco, et surtout Jean-Roger Cossimon, avec lequel il écrira plusieurs chansons. C'est un peu la vie de bohème, ou la galère, il montre ses premières chansons à Cocteau, à Traîner, mais parce qu'il est vraiment trop laid, il se fait virer. Puis il croit avoir trouvé sa première chance avec Piaf, mais sa chanson « Les Amants de Paris » qu'elle lui achète en 1945, elle ne la chantera que 3 ans plus tard. Le succès attendra. Ses chansons sont refusées dans les cabarets de Saint-Germain-des-Prés. Il faudra attendre 10 ans pour que Gréco mette Joli Môme à son répertoire et 20 pour que Montand chante l'étrangère. La vie d'artiste est frustrante. C'est alors qu'arrive Catherine Sauvage. C'est elle qui chantera les chansons de Ferré et les rendra célèbres, comme Paris Canaille en 1952. Mais Léo Ferré, auteur-compositeur, veut aussi être interprète. Puis les dates s'enchaînent. En mars 1955, après le succès de Paris Canaille, il fait son premier Olympia en tant que vedette en s'accompagnant seul au piano. En avril 57, il met en musique les poèmes de Baudelaire avec les fleurs du mal chantées par Léo Ferré et enregistre son oratorio sur la chanson du mal-aimé d'Apollinaire. En 1960, il signe chez Barclay qui va produire ses plus grands succès populaires comme Paname, Joli Môme, Merde à Vauban, Thank You Satan et tant d'autres. Et surtout, l'année suivante, l'album Léo Ferré chante Aragon, dont les célèbres poèmes, l'affiche rouge, Elsa, S ainsi que Les Hommes vivent. En 1963, il s'installe à Perdrigal, dans le Lot, avec Madeleine, sa fille, et une petite guenon prénommée Pépé. Les événements de mai 68 en France le marqueront profondément et début 69, il sort l'album intitulé Blanc, inspiré par mai 68, avec les célèbres titres L'été 68, Les anarchistes, C'est extra, bien sûr, depuis devenu un tube. Il décide de s'installer en Toscane avec sa nouvelle compagne, Marie-Christine, avec qui il aura 3 enfants. En 1970, il écrit le double album Amour Anarchie, considéré par beaucoup comme le summum de son œuvre discographique, avec les titres Paris je ne t'aime plus. Toujours en phase avec son époque, il apprécie la pop musique et en particulier les Beatles et les Moody Blues. Libertaire, anarchiste, il a milité toute sa vie pour cette cause. Léo Ferré meurt le 14 juillet 1993 à l'âge de 77 ans. Lors du dernier entretien qu'il a donné à Paris Match, quelque temps avant sa mort, il disait aux journalistes « Maintenant, vous pouvez dire Ferré existe, on l'a rencontré. » Et il ajoutait « Il n'est pas mort, car il rêve encore. » Pour parcourir avec nous la vie de chanteur et de poète, nous recevrons, après la fiction, Robert Belleret, journaliste, auteur du livre intitulé « Léo Ferré, une vie d'artiste » chez Actes Sud, première édition en 1996, une deuxième en 2003 et la prochaine cette année en 2016 puisque ce sera le centenaire de Léo Ferré.
Affaires sensibles. Léo Ferré, La musique insurgée, de Jean-Pierre Tiercelin. Une réalisation de Michel Sidorov.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et...
Léo, tu m'entends?
Chut.
Et où es-tu ?
Là, je travaille, dans la cage.
Chut. Avec Pépé ?
Bien sûr, avec Pépé. Sinon, qu'est-ce que tu veux que je foute dans une cage ?
Oh, s'il te plaît, ne prononce pas ce mot-là. C'est la volière de Pépé, elle est suffisamment grande, non ? On pourrait y mettre 18 éléphants.
Mais oui, bien sûr. Tu sais bien que j'adore travailler là, à côté d'elle. Tu vois, je suis bien installé, avec ma petite table et ma machine, face à la mer.
Mais pourquoi tu parles doucement ? Pépé s'est endormi ?
C'est pas Pépé ! C'est Guimard qui s'est endormi. Viens voir. Regarde Pépé. Elle le berce.
Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ma Pépé. Alors, il fait dodo le monsieur Guimard ?
Oui. Enfin, tant qu'il ne renverse pas le hamac.
Mais non. Regarde comme elle est câline. Elle lui fait des bisous. Oh, mais ça, c'est plus qu'un bisou, dis donc. C'est un vrai patin.
Et encore un. Il est gâté, notre écrivain. Il va faire de beaux rêves. Qu'est-ce qu'il en dit ?
J'étouffe ! Au secours !
Ma pauvre Pépé, l'élu de ton cœur me semble bien peu reconnaissant. Ce n'est qu'un homme, tu sais.
Allez, c'est bien, Pépé, c'est bien. Laisse-le un peu respirer. Allez. Ça va, Paul ?
J'ai juste cru mourir, mais à part ça, ça va.
Mourir d'amour ?
Mes amis, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Des choses parfois difficiles. J'ai survécu il y a peu à un tour du monde à la voile. Je relève d'un accident qui me vaut de marcher avec une canne, mais là...
Tu es fâché.
Mais non, voyons. Notre amitié est au-dessus de ça. Non, je suis un peu secoué. En fait, je crois que j'ai eu peur.
Peur ? De Pépé ? Elle qui est tout amour ?
Bon, disons que je ne suis pas tout à fait prêt à accueillir toute la force de cet amour.
C'est pour ça que vous n'êtes jamais venu nous voir dans le Lot avec Benoît ?
Ne réponds pas, Paul. Vous avez bien fait de ne pas venir. Là-bas, à Perdrigal, avec notre ménagerie utopique, c'est le château des chimères, mais aussi de la folie douce. Je comprends que ça puisse faire peur. Et puis, toi, tu préfères la mer, non ?
Oui.
Bon.
Et château pour château, je préfère celui-ci, sur son rocher battu par les vents. C'est si bon de se retrouver là, en dehors du temps. J'aime bien te regarder travailler et entendre tes premiers jets fulgurants face à la mer.
Ta gueule, je t'en foutrais, moi, des premiers jets. Attends un peu que je lise ta prose. Tu vas pas t'en sortir comme ça.
Bon, à propos de mer, je sens que je vais faire comme elle, me retirer. Et en profiter pour aller relever mes filets. Allez, travaillez bien. Et si vous êtes sage, ce soir, poisson grillé.
Ah.
Et prenez soin de Pépé.
Quelle vitalité. On peut dire que vous faites une belle équipe tous les deux.
Oui, on peut le dire. Je dois beaucoup à Madeleine. Elle est toujours là où il faut, quand il faut. Elle veille à tout. Elle me force à prendre des décisions, à me dépasser, à avancer. Elle me botte les fesses avec amour. Elle a su me faire exister sur scène. Elle m'a viré mes lunettes. Extirpée de mon piano pour me mettre debout face au public. Elle me fait répéter jusqu'à plus soif et elle m'éclaire, au propre comme au figuré.
Plains-toi.
Oh, je m'en garderai bien. Je lui dois la plénitude de ces dernières années. même si ça n'empêche pas la solitude.
Te voilà enfin reconnu à ta juste valeur. Tu es en pleine possession de tes moyens. Tu peux faire enfin ce qu'il te plaît.
Si tu le dis.
Jamais content, hein. Toujours ce besoin de malédiction. C'est plus fort que toi, ça te dépasse. Cet album, Verlaine Rimbaud, que tu rêvais de faire, il est là. Il existe, il est magnifique. Et pour une fois, la critique est unanime.
Ces deux-là aussi, ils étaient maudits. Mais là, je te l'accorde, je suis content. J'ai toujours eu envie de mettre les poètes en musique. Je l'avais déjà fait avec Apollinaire. Rudebeuf, Aragon...
Qui a dit « Ferré rend à la poésie un service dont on calcule mal encore la portée ».
Je sais pas. Mais en tout cas, c'était une vraie rencontre. Là, c'est encore autre chose. Verlaine et Rimbaud, minéral. Un couple tragique, non reconnu par la loi. Une malédiction qui finit par fabriquer de l'art. Tu comprends? Pour moi, le vers est musique. Le vers sans musique, c'est de la littérature. Alors mettre de tels poètes en musique, c'est un vrai plaisir de musicien. J'ouvre le piano, j'ouvre le livre, je lis, et immédiatement je chante en m'accompagnant. J'improvise. Et voilà, si ça vient pas, je passe à un autre poème. Mais la musique doit rester un support, donc un peu en retrait.
En ce moment, tu travailles sur des textes personnels ?
Oui. Figure-toi que mon patron, Monsieur Barclay, un homme adorable mais qui est tout de même un négrier, m'a demandé un succès. Un vrai. Rien que ça. Alors ma chanson va s'appeler Monsieur Barclay. Ça commence comme ça. Monsieur Barclay m'a demandé, Léo Ferré, je veux un succès, afin que je puisse promotionner à Europe 1. C'est rigolo, non ?
Ce qui est bien avec toi, c'est que tu ne cherches jamais l'embrouille.
C'est pas bien méchant. Par contre, celle-là, c'est autre chose. Une tragédie d'aujourd'hui. Une tragédie comme les aime notre société qui rejette les libres penseurs et les prisonniers politiques. Mais raffole des condamnés à mort.
Tu me fais voir ?
Tiens, tu liras tranquillement.
Ni Dieu, ni maître.
C'est le titre. Et ça revient entre chaque station jusqu'à l'exécution.
Non ! Ah non ! Ma canne ! L'épée ! Rends-moi ma canne ! Aïe ! Aïe ! Tu vas pas me frapper en plus !
Et qu'est-ce que tu veux ? Elle non plus, elle n'a ni Dieu, ni maître. Oh, écoute-moi ce barou ! C'est harmonieux, non ? Bravo, Pépé, vas-y !
Vas-y, vas-y, Pépé, vas-y, continue !
C'est beau comme du boulaise ! Complètement doté cacophonique !
Comme dirait Verlaine, écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire.
Après une quinzaine d'années de temps difficiles, la décennie des années 60 est pour Léo Ferré celle de la vraie rencontre avec le public, celle des albums de référence et des récitals dans les grands music-halls tels Bobino, qui deviendra l'un des rendez-vous rituels avec son public. La cinquantaine venue, Ferré semble enfin se trouver et peut s'affirmer comme un des grands de la chanson. Mais paradoxalement, cet éclatement de son talent, comme chanteur mais aussi comme musicien et poète, fruit d'un long travail acharné, épaulé par la présence et le soutien sans faille de Madeleine, est contrebalancé par une inexorable descente aux enfers de leur couple. L'isolement volontaire dans le camp retranché, peuplé d'animaux en semi-liberté, qu'est devenu le château de Perdrigal, et la dépression consécutive de Madeleine en sont la cause annoncée. Et vient le temps de l'impasse.
Faut-il encore te dire quelque chose, magnétophone de merde ? Je traîne à perpétuité 18 chats, une meute de chiens, 40 moutons, une chevrette, 3 vaches, un poney, un cochon et 3 nouveaux petits chimpanzés. Bambino, Tata, Titine. Plus Pépé. Pépé. Notre hic majeur. Je suis chimpanzéifié à bloc et sans issue. se cherchent des raisons de se maintenir dans une maison où l'éclat de rire, la folie et la vraie jeunesse ont disparu. Léo s'est accommodé mieux que moi de cette haute solitude. C'est un vrai misanthrope. Je vais essayer de le copier. Nous étions rats des villes, nous voilà devenus rats des champs. Je n'arrive plus à me plaindre. Martyr qui s'est martyrisé lui-même. Qui pourrait m'écouter ?
Oh, pardon. Tu t'enregistres ?
Oui, je m'enregistre. Encore et toujours. Je disais, qui pourrait m'écouter ? Mais je ferais mieux de me taire. C'est sans doute ce que tu penses, non ?
Pas du tout. Je sais que tu ne m'épargnes pas toujours là-dedans, mais c'est ton droit. Ces mémoires d'un magnétophone, c'était ton idée. Il faut aller au bout.
C'est moi qui suis au bout, Léo. Ce livre, tu devais l'imprimer.
Mais je vais l'imprimer. J'ai commandé une nouvelle presse. Je vais l'installer dans le petit bâtiment. J'attends juste que tu me dises que tu as mis le point final.
Le point final. J'ai bien peur qu'il ne soit déjà mis. Léo.
Oui.
Je t'aime, Léo.
Moi aussi, Madeleine. Mais...
Oui, Léo. Mais... Il y a un mais de trop. C'est comme ça. Allez, Phil. Tu pars travailler ?
Oui. Je vais sur le grand chêne. Je suis bien là-bas.
Tu emmènes Pépé ?
Bien sûr.
Veille bien sur elle. Le long des pierres, les derniers soleils jaunes éclatent. Les figues sont cardinales. Les murs boules sont en velours côtelé. Dis, Perdrigal, ne nous faisons pas l'hiver trop rude. Il vient.
L'hiver est venu, mais le printemps n'a pas suivi. Le 18 mars 1968, Pépé se blesse grièvement sur un pieu en tombant d'un arbre. Elle refuse de se laisser soigner. Le 22 mars, alors que les étudiants de Nanterre commencent leur mouvement, Léo prend la route pour un gala, mais avec l'idée de ne plus revenir. Les jours passent. Léo, dans sa fuite, croit retrouver la liberté. Madeleine se ronge d'inquiétude. La gangrène gagne irréversiblement la blessure de Pépé. Madeleine, minée par la dépression, doit être admise dans une clinique. Le 7 avril, à la demande de Madeleine, Pépé est tué d'une balle en plein front, après avoir été endormi. Léo, ravagé de chagrin et de culpabilité, refusera toujours de comprendre, et encore moins de pardonner.
Mais enfin, Léo, c'était la seule chose à faire, la seule. Et il aurait même fallu le faire plus tôt pour éviter d'aller définitivement dans le mur. Pépé était condamné. Tu avais pris la tangente et Madeleine était seule.
La gueule, Maurice. Je t'interdis de parler de cette femme qui a tué Pépé. Le sujet est clos.
Cette femme, Madeleine, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?
Tu la fermes, oui. Puis me regarde pas, regarde la roue, tu vas finir par nous foutre dans le fossé.
Laisse tomber, Maurice, il est pas bien.
Ah bon ? J'avais pas remarqué. Et dis donc, le pianiste aveugle, tu serais pas un peu voyant sur les bords ?
Et toi, le régisseur fidèle et multifonction, tu serais pas un peu con ?
Oh, c'est fini, les mômes. Qu'est-ce que je fous avec deux tarés pareils ?
Ah, on se le demande.
Oh. Allez, Léo, dis-lui
qu'il meurt pas idiot.
Lui dire quoi ?
Avant-hier à Vannes, avant le gala, à l'hôtel.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Rien, j'ai craqué. Puis c'est parti tout seul.
T'as écrit quelque chose ?
Dis-lui, Popol, moi, je peux pas encore. Oh.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. t'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour l'air plié la nuit. Tandis que lui, bah, oui, Pépé. Après, je sais plus.
C'est bien, Popol.
La suite, on verra plus tard. Sinon, notre chauffeur va avoir les yeux brouillés par la buée.
Et tu t'es pas regardé?
Tu m'emmerdes. Je t'ai déjà dit de pas me regarder. C'est encore loin, Brest.
On devrait pas tarder. Notre vieux libertaire de l'Ochu a déjà dû préparer le comité d'accueil.
Trois galas pour les anards. On se mouche pas du pied.
Non, ça va nous faire le plus grand bien.
Et Paris, c'est pour quand?
Le 10 mai, à la Mutualité, pour le gala de soutien au monde libertaire.
Ah, ça, c'est du sérieux. Allez, roule ma poule.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître.
Allez les anards, encore un petit, et le rouge, ça va très bien avec le noir.
Non, ça va très bien comme ça. Les anards, faut que je chante pour eux.
Et Popol, il chante pas.
Non, mais il est censé m'accompagner au piano. Il va finir par jouer à côté de ses touches.
Un pianiste complètement noir sur fond de drapeau noir, ce serait du meilleur effet, non? Et dis donc, c'est une idée où il y a de plus en plus de monde dans la rue? Ils reviennent de la manif ou ils y retournent?
Ils remontent vers le haut du boulmiche. Pendant la balance, un technicien m'a dit qu'ils étaient déjà des milliers.
Ils sont jeunes?
Très. Pardon, Popol, mais ça fait du bien aux mirettes, ce vent de jeunesse qui conteste.
T'en fais pas, Léo, moi ça m'enchante les esgourdes. Tiens, ils parlent de toi.
Mais qu'est-ce que tu déconnes? Tu as autre chose à faire? D'abord, ils me connaissent même pas.
C'est normal, t'es aveuglé par tes tympans de voyant. Mais attends deux secondes et tu verras.
C'est lui? Oui, t'es sûr? Je te dis que c'est lui.
Vous venez avec nous, monsieur Ferret? C'est le grand soir, faut pas le rater.
Je voudrais bien, mais je dois chanter pour les anarchistes, à la Mutualité.
Allez, on vous emmène. Les anarchistes, ils ont qu'à venir avec nous.
On va tout de même pas faire la contestation sans vous, monsieur Ferret.
Je suis très touché, je suis de tout cœur avec vous, mais...
Allez, Ferret, avec nous. Ferret, avec nous.
Merci, merci, merci. Ah, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ému. Vous savez, c'est un cadeau que vous me faites. Mais mon boulot à moi, c'est d'écrire des chansons et de les chanter. Et ce soir, je dois chanter. Vous comprenez? Et quand j'aurai fini de chanter, je suis sûr que les camarades qui vont remplir la salle de la Mutualité, ils iront tous vous rejoindre comme un seul homme. Et s'il y a des barricades, eh ben, ils iront chanter sur les barricades.
Ils ont voté, et puis après...
Ni Dieu, ni maître. Voyez, vous êtes avec nous, de toute façon. On vous chante et on se quitte plus.
Allez, faut qu'on y aille. Salut, monsieur Ferret. À bientôt.
À bientôt, mes amis. C'est promis.
Ils sont chauds?
Ils sont bouillants, tu veux dire?
La première partie s'est bien passée.
Oui, mais c'est toi qui s'attendes.
La salle est blindée. Ils ont grimpé sur l'avant-scène, sapant par grappes du balcon. Tu veux voir?
Oui, un petit coup. Oh la vache! C'est du sérieux. Ils ont même déroulé des banderoles. Attends, qu'est-ce qu'ils ont...
Le pouvoir!
Le pouvoir? Il maudit Louis Michel.
Oui, c'est ça. C'est bien qu'elle soit de la partie.
Il y a des drapeaux.
À profusion. Des noirs, des rouges. Ça bouge, ça tangue. On dirait une armada en révolte.
Je peux voir.
Qu'est-ce que t'as dit?
Et t'as très bien entendu.
Allez, pousse-toi.
Et sois pas vache, tu vas pas empêcher un pauvre aveugle de voir les drapeaux noirs, non? Ah, c'est beau. Je les sens d'ici.
Sacré Popole, on leur fera pas.
Dis, Popole, tu sais ce qu'on va faire?
Je sens que tu vas me le dire.
Celle-là, on l'a encore jamais chantée sur scène.
Les anarchistes?
Depuis le temps que j'attendais. Léo, c'est ce soir ou jamais. Moi, je suis prêt.
Alors, on attaque avec.
Mais les gars, le régisseur me fait signe, il va falloir y aller. C'est bon?
C'est bon. Maurice, emmène-moi à mon piano.
Merde, Léo! Merde, mon Popole!
Merde, les mecs! Allez! Allez, tout!
Et à la fin, sur son... Et pourtant, ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes.
Ce soir-là, l'osmose est totale entre Léo Ferré et un public survolté qui, après le concert, ira grossir la foule des manifestants rue Gay-Lussac et boulevard Saint-Michel. Lui, fidèle à son éthique, restera à la place qu'il s'est fixée. Mais désormais, rendez-vous est pris avec ces jeunes qui se reconnaissent en lui. Léo Ferré devient simplement Ferré, pour toute une jeunesse contestataire qui l'adopte définitivement, tel un vieux rocker, comme chantre de sa révolte.
Ou bien fils de si peu, qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes.
Ils sont bien gentils, mais à force d'applaudir à tout bout de champ, ils vont finir par me foutre dedans.
Il faut que tu te fasses une raison. T'es devenu une idole.
Et en plus, ils te trouvent beau. Toi, t'es le seul mec que je connaisse qui est capable de faire une cure de jouvence en laissant pousser ses cheveux blancs. Des beaux cheveux d'ange. Mais un ange noir. Ouh, qu'ils sont doux.
Ah, Patouche, tu m'emmerdes, Popole.
Non, mais vous avez vu vos gueules de malfrats? Maurice avec ses bacchantes de guerriero, Paul avec sa barbouze et lunettes de mafioso. Vous faites une belle paire.
Non, Léo, un beau trio. T'as pas regardé ton blouson de cuir ni tes Santiago? Faudrait pas qu'on aille traîner dans certains quartiers.
Heureusement, sur les petites routes, on est tranquille. Qu'est-ce qui se passe, Maurice?
Rien. Les flics.
Bah, ça alors.
Tiens-toi tranquille, Popol, hein.
Bonjour.
Monsieur, bonjour. Papier du véhicule, s'il vous plaît.
Voilà.
Merci. Une seconde, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il est allé rejoindre son collègue dans le fourgon pour vérification. On ne doit pas lui inspirer confiance.
Il est où, le fourgon?
À côté de la voiture, de ton côté.
Papa, reste ici!
Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de salopard! On aime la provocation, c'est ça? Insulte à représentant de la force publique, ça va vous coûter cher.
Au secours, lâchez-moi, vous me faites mal.
Alors, on cogne les aveugles maintenant?
Paul, enlève tes lunettes. Et regarde le monsieur en uniforme qui est censé protéger les citoyens sans défense.
Je pouvais pas savoir, moi. Et votre canne blanche?
Dans la voiture. Vous avez déjà essayé de pisser avec une canne, vous?
Ouais, tenez, voilà vos papiers. Bon, allez, circulez.
Quel con!
Le flic?
Non, toi! Ces jours, tu finiras par nous faire coffrer.
Tu sais, Popole, même si des fois tu m'agaces avec tes fioritures, je préfère que tu improvises seulement au piano.
Eh ben, dis donc, pour un provocateur.
Oui, mon pote, je suis un provocateur et je l'assume. Mais il faut provoquer les gens à l'intelligence. Avec les flics, tu perds ton temps. Ils n'ont aucun sens musical.
La musique avant toute chose.
Allez, les gars, roulez, jeunesse. La route est belle. On finira bien par y arriver. Avec le temps.
et Léo Ferré repartira sur les routes d'une nouvelle vie. Il continuera de composer de magnifiques chansons, il dirigera des orchestres, il jettera de longs textes fleuves à la face de son public, il continuera de se dire maudit, seul et blessé, il continuera d'être aimé d'un public indéfectible. Sa vie personnelle semblera heureuse et apaisée, cachée au creux d'une vallée de Toscane où il fondera une famille. Mais ça, c'est déjà une autre histoire qui se lira plus tard, avec le temps.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps.
C'était Léo Ferré, La musique insurgée, de Jean-Pierre Tiercelin. Avec François Sienner, Léo Ferré, Marina Moncade, Madeleine Ferré, Laurent Horry, Paul Guimard, Pierre Puy, Maurice Fraud, Olivier Peignet, Paul Castagnier, Marc Léonian, le gendarme, Julien Barret, le narrateur, et les voix de Simon Bourgade, Guillaume Potier et Laure Berend. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagnel et Nadège Antonini. Assistant à la réalisation, Yaël Mandelbaum, Vivien Demeyer, Clémence Grosse. Réalisation, Michel Sidoroff.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie Schwarzkopf. Fouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid.
avec le temps.
Tu vois un couple dans la rue, tu changes de trottoir. Parce que le couple, ça s'arrête un jour ou l'autre. L'amour, ce n'est pas éternel. À moins qu'il y ait l'éternité de l'instant, alors là, où tu vas, hein. Un jour, j'étais donc avec Marie. Hein. On n'était pas mariés, on vivait ensemble. On avait Mathieu. Je vais à la SACEM. Et le type que je connaissais, avec qui j'étais copain, il me dit, tiens, monsieur Ferré, je vous donne un chèque. C'était 50 000 francs. Il me dit, ça, c'est un début de retraite, je sais pas. Ah, j'ai dit, mais alors, si je meurs, si je meurs, c'est fini. Si vous mourrez, c'est fini, quoi. Vous ne touchez plus ça. Ouais. Et je dis, si je suis marié à votre femme, en touche la moitié. Je suis rentré ici, à Castelline, on s'est mariés tout de suite.
C'est vrai, ça.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Léo Ferré, la musique insurgée. Notre invité, Robert Bellerey, journaliste, auteur de la biographie intitulée « Léo Ferré, une vie d'artiste ». Bonjour Robert Bellerey.
Bonjour.
Alors, né en décembre 1946 à Asnières, vous avez débuté dans le journalisme en 1970 au Progrès de Lyon, avant de rejoindre le journal Le Monde en 1986. Reporter puis grand reporter jusqu'en 2008, vous avez réalisé des enquêtes dans des domaines très divers. Vous avez couvert l'actualité sur les points chauds de la planète et signé de grands portraits de personnalités et d'artistes. Vous êtes, comme nous l'avons dit, l'auteur du livre « Léo Ferré, une vie d'artiste » chez Actes Sud, et puis de biographie aussi, Jean Ferrat, Le Chant d'un révolté, ça c'était à l'Archipel en 2011, Piaf, un mythe français chez Fayard en 2013, et Edith Piaf encore, Vivre pour chanter chez Grund en 2015. Voilà, Robert Bellerey, Léo Ferré était un poète, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas comme ceux dont il a chanté les poèmes, mis en musique les poèmes, avec un côté peut-être un peu anachronique. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire dépassé, anachronique, mais à côté de son temps, et même pendant son temps.
Il a toujours été anachronique parce que c'est quelqu'un d'une autre planète, c'est quelqu'un d'immense. Plus les années passent, plus je me rends compte de la chance que j'ai eue de rencontrer son œuvre. Mmh. J'ai eu la chance de le voir sur scène en 1961, j'avais 14 ans, et ce concert a changé ma vie. Il y avait devant moi Elsa Triolet et Lou Aragon, deux rangs devant. Et voilà, un gosse de 14 ans, pas spécialement doué, un lycéen un peu ringard, peut d'un seul coup voir s'ouvrir devant lui les portes de la poésie, de la littérature, de la musique, des belles choses, du grand cinéma, etc. Ferré, je lui dois tout. Et j'ai eu la chance, après de le rencontrer comme journaliste, de devenir, si ce n'est son ami, quelqu'un qu'il aimait bien. Je suis allé le voir en Toscane. Donc, oui, il a peuplé ma vie, il l'a changé. Et c'est vrai que c'est un poète. Michel Bouquet disait il y a quelques jours, c'est le plus grand poète français depuis Rimbaud. Bon, je sais pas, on peut discuter, parce qu'Aragon, c'est pas dégueulasse non plus, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que c'est un poète.
Alors, vous avez une révélation, quelque part, à 14 ans, quand vous le voyez.
Oui.
Qu'est-ce qui vous touche le plus?
Son insolence, les vibrations de sa voix, le grain de sa voix, la rossité, quelque chose dans la voix qui m'accroche. Mmh. L'insolence, parce qu'il y a des textes qui déménagent, déjà, il y a les Rupins, il y a 5 ou 7 ans, 20 ans, puis les merveilles d'Aragon, qui me passent un peu au-dessus de la tête, gamin que je suis. Mmh. J'étais là aussi quand il crée les poètes de 7 ans sur la scène de Bobino. Et les poètes de 7 ans, c'est un poème qui dure près de 10 minutes. Il est seul au piano et la salle est envoûtée dès le troisième vers. Et tout le monde a les larmes aux yeux. Donc il a rendu ce service, non pas à moi, c'est anecdotique, mais à des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont, oui, découvert plein d'univers, la révolte, la beauté, le vent, les poètes, la musique.
Et l'anarchie, parce que ouais. C'est une doctrine, une vision du monde dont aujourd'hui on a un peu de mal à dessiner les contours. Hein.
Oui, on a toujours eu du mal. Hein,
d'ailleurs, on a toujours eu du mal.
Tout ça, c'est compliqué.
Voilà, aujourd'hui, encore plus. Ferré est-il moderne?
Ultra moderne, solitude, solitaire, on dirait Souchon.
Oui.
Il n'aimait pas son époque, il voyait bien où elle nous menait. Il y avait les yéyés, quand même.
Quel décalage.
Hein, quel décalage. Et l'anarchie, c'est, je ne sais pas si c'est le bon mot, en fait. Il était libertaire. C'est-à-dire qu'il, l'anarchie, c'est, pour lui, c'était un état d'âme. Il était le contraire d'un militant. Hein.
Cela dit, quand Georges Brassens écrit « Hécatombe », il est complètement anarchiste.
Complètement. Mais Brassens, lui, était pratiquement un militant. Ferré lui donnait des galas auxquels j'assistais à la Mutualité pour le Monde Libertaire tous les ans, mais il n'était pas du tout en carte, quoi. Il était avant tout solitaire. c'est l'étranger de Baudelaire, quoi. J'aime les nuages, les merveilleux nuages. Il était vraiment ailleurs. Mais il refusait les pouvoirs d'où qu'ils viennent.
C'est, ça, c'est ni Dieu ni maître, quoi.
Ni Dieu ni maître, qui est sans doute une de ses plus belles chansons.
Bien sûr. Le succès n'est pas venu seul, hein. Évidemment, beaucoup d'artistes connus aujourd'hui ont galéré, comme on dit. Léo Ferré a carrément souffert, d'autant plus qu'il a souffert de son physique. Alors, parlez-nous de ces années-là, les cabarets Saint-Germain, Paris Canaille,
avant d'être... Très, très dur. Voilà. Très, très dur. Il arrive de Monaco, non pas en 45, mais en 46. Il passe au bœuf sur le toit. Il a des grosses tatanes de ski en poil de phoque aux pieds. Et il va se présenter sur la scène de l'Olympia comme ça, avec des chaussures d'après ski, des pantalons fuseaux. Il est déjà pas mal dégarni. Il a des lunettes, pas très esthétiques. Il est pas très bien dans sa peau. Il a des problèmes avec les filles. Il va traîner des fois au bordel quand même. Voilà, c'est pas quelqu'un d'épanoui, mais c'est quelqu'un qui a déjà un talent hors du commun, surnaturel, mais qui le sait pas forcément. Et son rêve, c'est pas d'être du tout chanteur, c'est d'être musicien. Et de composer et diriger des orchestres. C'est ça qu'il a envie de faire à 30 ans. Et puis, il écrit des chansons parce qu'il faut bien vivre. Les chansons, il y a quelques-uns qui les chantent, dont la magnifique Catherine Sauvage, qui a été vraiment la porteuse de Ferré. Elle a chanté 50 chansons de Ferré. Elle était éblouissante. Mais il y a peu de gens qui lui prennent ses textes. Piaf, qu'il adorait, qu'elle aimait bien aussi. Et du coup, il se dit, je vais les chanter moi. Il vit une vie de vache enragée et de bohème, mais il en est l'archétype. Il y a Francis Claude qui s'occupe de lui, qui le fait monter quelques échelons. Après, il passe au Miller Larsouille et puis il passe dans des cabarets qui étaient pour lui des très, très mauvais souvenirs. Si vous le lanciez en lui disant « Alors, Saint-Germain-des-Prés », il disait « C'était l'horreur !» Il disait ça. Et puis, à côté de ça, il aimait bien prendre un demi avec les copains à la terrasse de Chélip ou de Domingo. Quoi.
Alors, on connaît Ferré, le poète, le parolier. Est-il un bon chanteur ?
Pour moi, oui. C'était un phénomène sur scène, comme Piaf, comme Brel, comme... Dans un autre genre, Aznavour, c'était une bête de scène. C'était un bon chanteur, oui, parce que sa voix, il pouvait vous sortir du Verlaine. Il n'y a pas plus musical que du Verlaine. Écoutez la chanson bien douce qui ne chante que pour vous plaire. Bon, et puis il pouvait vous chanter « Y en a marre ». Et puis des anarchistes, des brûlots, des trucs violents, ça grinçait, ça cognait. C'était formidable. Si vous voulez, à Bobino, j'ai les souvenirs les plus beaux, avec Verlaine, Rimbaud, Aragon, et puis Duferré, La mémoire et la mer, des textes comme ça. Et puis à la Mutualité, c'était autre chose, c'était les grandes messes, les grandes célébrations, Anard, qui là avait des côtés un peu gonflants. Vous aviez les bannières rouges et noires, vous aviez les slogans, le pouvoir est maudit, Louise Michel, on vendait le monde libertaire à l'entracte. Et puis ça gueulait dans la salle presque autant que sur scène. Mais il se passait des choses, je veux dire, avoir vécu ça... Le 10 mai 68, la nuit des barricades, la plus violente des nuits d'émeute au quartier latin, Ferré passe à la Mutualité. Et les étudiants qui vont manifester le reconnaissent dans un bistrot en face à la Mutualité. Et ils disent « Léo, Ferré, viens avec nous, Ferré, avec nous !» Il commence à scander le truc et lui dit « Mais non, je peux pas, je suis désolé, il faut que j'aille chanter, j'ai un contrat, gna gna gna, etc. » Et puis il fait son concert. Après le concert, la nuit s'enflamme, les bagnoles brûlent par dizaines, enfin c'est une nuit mémorable. Mais Ferré, il va pas dans les manifs. Encore une fois, il est ailleurs, il est solitaire. Il va bouffer, je crois, sur la butte Montmartre avec son pianiste et quelques copains. Voilà. Et son mai 68, il le vit à sa manière, mais pas du tout dans...
Il l'intériorise, en fait.
Oui, pas sur les pavés de Saint-Germain.
Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Robert Belleret, on a parlé de Léo Ferré, on a parlé de l'homme, puisque vous l'avez connu, vous avez eu la chance de le connaître. Alors, quand on parle des hommes, souvent on parle des femmes. Dans une interview, il a dit un jour, les femmes, on les prend pour des muses, elles deviennent des muselières. Difficile à défendre, ça.
Ouais, c'est violent, c'est brillant, mais c'est violent. C'est sûr qu'il a eu des telles blessures. Il s'est marié 3 fois, Léo. Moi, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à écrire sa bio. Je ne savais pas du tout qu'il s'était marié une première fois. Donc pendant la guerre, en 1943, vous l'avez dit, avec une fille qui était une pin-up, qui faisait la publicité pour Ambre Solaire. Puis je crois qu'elle l'a un petit peu trompé, il est parti dans une tournée calamiteuse aux Antilles. Il est revenu, ça a clashé, et il a écrit une chanson absolument sublime, La vie d'artiste.
Ouais.
Tu peux conserver le phono, moi j'emporte le piano, c'est le contraire. Qui est l'histoire de sa rupture avec Odette. Qu'il a repris longtemps après en artelant le piano avec de la rage. À l'époque, c'était quand il l'a créé, juste après-guerre, c'était pas de la rage, c'était une chanson douce, mais c'était quand même très très cruel. Il rencontre là-dessus Madeleine, sa deuxième épouse, en 1950. Coup de foudre dans un bistrot de nuit, le bar Bac, rue du Bac. Histoire magnifique, incandescente. Paul Guimard, Catherine Sauvage me disaient « C'est la plus belle histoire d'amour qu'on a rencontrée ». Elsa et Aragon, c'était presque de la gnognotte à côté. Et puis après, quand ça s'est méchamment dégradé, qu'il y a eu de la rupture, il a écrit des trucs très violents aussi. Donc ça, c'est sa deuxième épouse. Et puis le troisième mariage, c'est encore tout à fait différent.
Ouais.
C'est la création d'une famille, la fondation d'une famille, avec Marie-Christine, l'installation en Toscane, et une vie d'ermite un peu loin du monde, avec 3 enfants, et un Ferré qui se consacre beaucoup plus à la musique qu'à l'écriture à ce moment-là.
Plus calme en tout cas que cette période dans le Lot.
Beaucoup plus calme,
mais aussi
moins créatif.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, dans le Lot, c'est prodigieux, c'est du Shakespeare. Moi, je rêve qu'on en fasse une pièce de théâtre ou un film. C'est ce couple qui vit dans un château du XIIIe siècle,
ouais,
au milieu d'un bois de chêne. Ils vivent là, couple incandescent, entouré d'animaux. Pépé, la petite chimpanzée, puis 3 autres chimpanzés, puis des moutons, puis un poney, puis un cochon apprivoisé qui regarde la télé et qui mange des sucres d'orge à côté de Léo en regardant les téléfilms. C'est ça, c'est la vie. Et Léo fait les plus belles choses de sa carrière à cette époque. Enfin, carrière, le mot est affreux, il ne convient pas. Il met en musique Rimbaud, Verlaine, un deuxième double album Baudelaire, et puis ses plus beaux textes, même ceux qu'il chantera dans les années 70-80, il les écrit là. Et dans le même temps, le couple se déchire. Léo se laisse un peu aller, il se rase plus, il a plus de lacets à ses godasses, il a des vieux shorts, il va écrire griffé par le soleil avec Pépé sur l'épaule. C'est une vie de dingue.
Là, c'est étrange quand même, Ferré, sa guenon par exemple, on l'a vu dans la fiction tout à l'heure.
Ouais.
C'est étrange, cet amour exclusif pour son
singe. C'est un enfant de substitution, hein, ni plus ni moins.
Ah, oui.
Il faut voir ce que c'est. Moi, j'ai pas expérience, on l'a pas, mais un chimpanzé, c'est quand même très proche. Hein. C'est les plus près de nous. Donc, ils l'ont toute petite. Elle mange à table, Pépé. Elle voit quelqu'un qui sort une cigarette, elle prend les allumettes, elle craque l'allumette, elle allume la cigarette du visiteur. Donc Pépé, il y a de quoi devenir dingue d'avoir un animal comme ça avec soi.
Alors on a dit aussi de Léo Ferré qu'il vivait comme un riche, on lui a reproché ses goûts de milliardaire, sa Rolls-Royce, bon...
Jamais eu de Rolls, c'est pas...
Alors voilà, parce que ça
jamais
s'était
eu
dit.
Rolls.
Bon, comment il vivait?
Comme un bohème. Moi, je l'ai vu vivre en Toscane un petit peu. Il n'y a rien qui lui faisait plus plaisir qu'un pastaga. Puis après, il se mettait à table. Rien ne le régalait plus qu'un plat de pâte à la sauce tomate. Et un coup de Chianti, c'était le contraire d'un mec qui aimait le luxe. Avec Madeleine, il vivait dans un gourbi, boulevard Pershing, là où il y a l'hôtel Concorde et le palais des congrès aujourd'hui. C'était un espèce de garage de trucs avec des tôles, des vieux pneus, presque un bidonville. Dans le château, c'était une vie de cinglé au milieu d'un château qui partait en ruine, avec Pépé qui cassait le toit, etc.
Donc ses revenus, parce que évidemment, ces disques
ont généré
beaucoup de revenus, n'ont pas changé fondamentalement son style
non,
de vie.
Non, il s'est payé une Ferrari. Et en fait, à un moment, il a eu une Ferrari parce que, bon, il y a une Ferrari, c'est un Boeing. C'est à peu près le seul luxe qu'on lui connaissait.
Mmh.
Mais il défendait son beefsteak, il avait toujours l'impression qu'on le volait, il n'avait pas toujours tort. Il était un peu hargneux sur ce plan-là. Je vous dis, mauvaise foi, ça c'est incontestable, ce qui faisait aussi son charme.
Alors on l'a dit, troisième partie de sa vie en Toscane. Pourquoi la Toscane?
Bah, il est aux trois quarts italien par
oui,
ses origines.
Oui, il aurait pu être dans les Pouilles ou ailleurs, mais il est toscan.
Ouais, bah tant qu'à faire, il choisit une région qui est un petit peu sublime quand même. Hein.
C'est moins qu'on puisse dire.
Ah, c'est entre Sienne et Florence.
Donc c'est en plein dans le Chianti.
En plein. Ouais. Ah ben Marie-Christine, elle produit un Chianti magnifique, merveilleux. Elle fait de l'huile d'olive et du Chianti. Et c'est une ferme en fait. Quand je suis allé, on mangeait dans la cuisine qui est en même temps une véranda qui donne sur ce paysage sublime de Toscane. Et vallonnement, les vignes et les oliviers. Bon, c'est très beau. Tant qu'à faire, autant choisir un coin comme ça.
Il disait dans une interview au Parisien, en parlant de ses enfants, « Je travaille encore pour eux afin qu'ils aient les moyens de choisir leur existence et ne soient pas obligés de subir un patron. Ouais. » Et il ajoutait, « Le bonheur est un hold-up permanent, un moment à saisir quand le chagrin, lui, se repose. Une promenade avec son chien, une cigarette après l'amour, un rire de gosse. » Et il dit, « Grandir, c'est apprendre à choisir l'instant. » C'est vrai qu'il faut avoir du talent pour être heureux dans nos sociétés qui sont compliquées.
Ouais, et je suis pas sûr qu'il était heureux souvent. Mais voilà, le bonheur, ça peut être une Celtic partagée, quoi. Et il fumait des Celtic, c'est énorme, des gros modules, c'est génial, si on aime les cigarettes brunes. Un coup de rouge, une cigarette, des copains, Maurice Frot, qui était aussi un grand écrivain, Frot. Et c'était le grand, grand copain, gorille, tout ce qu'on veut de Ferré.
Alors, une dernière chose. Ouais. Que pensait Ferré de Georges Brassens et de Jacques Brel? Je vous dis ça parce que tout le monde connaît cette photo. Voilà, l'interview d'abord sur RMC. Ouais. Et puis la photo qui était prise
qui est devenue
et tirée à des
mythique,
milliers d'exemplaires que tout le monde a, qu'on trouve partout.
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il pensait des deux autres, si j'ose dire?
Il aimait beaucoup Brassens, mais chacun considérait l'autre comme un concurrent et... Il n'y avait pas de mépris, mais il y avait de l'ignorance et de l'indifférence. Un peu. Mais il aimait bien Brassens et il était furieux parce que Match avait une fois fait une double page d'un côté Brassens qui disait « Ferré, beaucoup de talent » et Ferré disant « Brassens, connais pas » ou quelque chose comme ça. Or, il disait « Je connais pas assez, je... » Ils se sont rencontrés, je crois, pratiquement pour la première fois
pour cette interview
à trois. Ouais, ouais. Et alors Brel, qui avait beaucoup de talent, que j'adorais aussi, hein, je ne vais pas cracher sur Brel, mais Brel, il était aussi bien barré et un peu exalté, et je ne crois pas qu'il aimait grand monde, et il crachait sur Ferré. Il l'appelait Léon, il disait « Chez Léon, tout est bidon, des vacheries comme ça ». Et l'interview, c'est intéressant, évidemment, c'est un document, mais c'est d'un faux cul incroyable. Ils se font des politesses, des rondes jambes.
Ils sont pas super à l'aise, effectivement.
Non, ils sont pas très à l'aise. Ils boivent des bières, ils fument comme des pompiers. Et il se passe quand même une chose extraordinaire dans l'interview. Léo m'en a reparlé plein de fois. Il dit, lui, il lance, et si on faisait un spectacle à trois? Toi, Georges, tu rentres, tu chantes une chanson, tu ressors, Jacques arrive, il chante une chanson, après c'est mon tour, etc. Et les autres, alors... Brel dit « C'est dingue, donc je fonce ». Bon, c'est tout Brel, ça. Et Brassens, c'est aussi tout Brassens, dit « Ouais, mais pourquoi pas? Mais tu crois qu'on ne va pas lasser les gens? Et pourquoi nous? Pourquoi pas d'autres ?» etc. Bon, ça tergiverse, ça se fera jamais. Et Ferré, il va ruminer ça, il m'en parlera longtemps après en disant « Tu te rends compte, ils ont laissé passer ça. » Et j'avais trouvé, pour le final, pour que tout le monde soit d'accord, on revenait tous les trois en se tenant par la main et on chantait ensemble « Tant des cerises ».
Et on aurait aimé le vivre.
Ah oui, ça aurait été sublime.
Bien, merci en tout cas Robert Belleret. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette biographie intitulée Léo Ferré, une vie d'artiste. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Léo Ferré, la musique insurgée. Une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidoroff et Hélène Bizio. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin.